Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci de commencer cette semaine avec nous. Séquence Midi vous accompagne en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h. Au programme, vos découvertes musicales, votre agenda et bien sûr des invités liés à l'actualité locale. Aujourd'hui, on va parler de la création d'une chaire énergie et territoire à l'Université de Poitiers. Ce sera en seconde partie d'émission. Mais d'abord, on accueille Lisa Da Silva qui est vice-présidente en charge des affaires académiques et sociales à la FEP. Bonjour.
Bonjour.
Et vous venez nous parler aujourd'hui d'une étude qui est sortie sur le coût de la rentrée 2025 en Poitou-Charentes, une étude que vous faites chaque année en partenariat avec la FAGE. Alors, parlez-nous déjà un petit peu de cet indicateur du coût de la rentrée que vous publiez chaque année, en quelques mots, ce que ça représente.
Oui, bien sûr. L'indicateur du coût de la rentrée, ça représente en fait un étudiant aujourd'hui qui rentre dans l'enseignement supérieur et qui est non boursier. On fait des calculs pour un peu avoir un panorama de ses dépenses sur le mois de septembre. Et en gros, on va prendre différents frais. On va prendre les frais de la vie courante, c'est-à-dire tout ce qui va être l'alimentation, le loyer, quelque chose dont il est obligé de s'acquitter pour vivre. Et après, on va avoir aussi les frais spécifiques qui sont là plus alloués à l'université, donc les frais d'inscription, la CVEC, qui est la contribution vie étudiante et de campus, les garanties aussi qu'il doit donner. Donc on a ces deux types de frais, on fait une moyenne, et après ça nous donne un résultat pour le mois de septembre, quand les étudiants rentrent.
Et donc, en Poitou-Charentes, un étudiant devra débourser en moyenne 2895,76 € pour sa rentrée. Ça, c'est cette moyenne. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce chiffre? Est-ce que c'est alarmant?
C'est forcément alarmant parce qu'en plus, on remarque une augmentation par rapport à l'année dernière. On est à plus 46 € pour un étudiant par rapport à la rentrée 2024. Nous, forcément, c'est alarmant parce que quand on constate cette augmentation et que derrière, on constate aussi des augmentations sur des demandes d'étudiants, on a reçu énormément de demandes cet été pour des problèmes de logement, d'étudiants qui ne trouvaient pas des logements ou qui étaient des logements trop chers. On a aussi notre épicerie sociale et solidaire où on continue aussi à avoir des demandes. Donc cette épicerie a permis aux étudiants de venir faire leurs courses à 10% du prix du marché. Ce qui est vraiment une aide pour eux. Mais pour autant, on est à quelques bénéficiaires à comparaison de ce que représente aujourd'hui l'Université de Poitiers. Et pourtant, ça continue d'augmenter. Donc forcément, c'est alarmant parce que le prix augmente, mais la demande augmente aussi des étudiants. Donc on se rend compte que les étudiants sont de plus en plus précaires aujourd'hui. Et pourtant, les frais augmentent. Et je pense notamment, et c'est là où nous, on tire aussi la sonnette d'alarme, que ce soit au niveau de l'université ou de l'État, les frais d'inscription augmentent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 2-3 € par an, mais aujourd'hui, 2-3 € pour un étudiant, imaginons qu'on prend boursier, c'est 3 repas dans la semaine. Ou aussi remettre dans le contexte de qu'est-ce que ça représente pour un étudiant 5 €, 5 repas. Et quand on sait que dans nos agorae, c'est 66% quasiment de nos étudiants qui sautent des repas dans la semaine alors qu'eux-mêmes sont déjà précarisés, quand on pense à des étudiants qui ne sont pas boursiers et qui n'ont pas d'aide, on se dit que la situation est certainement pire.
Et on constate qu'il y a des disparités importantes entre les villes de cette ex-région Poitou-Charentes. À Poitiers, on est à quand même 100 € de moins. Comment on peut expliquer ces écarts?
La plus grosse dépense, on a un peu, quand on regarde les chiffres, il y a trois qu'on prend dans les frais de la vie courante. La première, c'est le loyer. Après, c'est l'alimentation et le loisir. Le loyer, aujourd'hui, vous prenez La Rochelle, ils sont quasiment à une moyenne de 600 € de loyer. Là où, forcément, si on prend Niort ou Angoulême, ou aussi on fait les calculs, on est quasiment à 400 € de loyer. Donc quand vous avez une différence de 200 €, forcément, ça met des disparités. Aujourd'hui, pour un étudiant à La Rochelle, on est, pour un mois de septembre, à plus de 3 000 € de rentrée. Donc la disparité se fait notamment sur le loyer, qui est la plus grosse dépense aujourd'hui pour un étudiant sur l'année.
Et quels sont les postes de dépenses qui ont le plus augmenté?
Le loyer.
Le loyer, là aussi.
Le loyer. Et après, un autre qu'on a remarqué et sur laquelle, par contre, avec l'université, on travaille, c'est notamment les protections périodiques. On a remarqué une augmentation de 3-4 €. Mais encore une fois, remettre dans le contexte de ce que ça représente pour un étudiant. Et qui, là, en fait, sont des choses pareilles où on en a besoin tous les mois pour les personnes qui sont menstruées. Donc, ça continue à tirer une sonnette d'alarme sur aussi en fait des choses qui sont censées être dans la vie en fait de manière générale et qui aujourd'hui coûtent un prix et sur lequel on se dit que des étudiants vont encore sacrifier ça pour pouvoir se nourrir, se loger ou tout simplement étudier et pouvoir s'inscrire à la fac.
Là, vous parliez de la CEVEC, donc la contribution de vie d'étudiante de campus, qui augmente aussi. Ça, j'imagine que vous travaillez avec l'université sur ces questions-là.
On travaille sur l'université. En fait, la problématique de la CEVEC, c'est qu'elle est, elle est liée en fait à l'augmentation du coût de la vie. Donc ça veut dire que à l'inflation.
Elle est indexée
voilà.
En fait.
Elle est indexée sur l'inflation. Donc ça veut dire que si le coût de la vie augmente, la CEVEC augmente. Donc en fait, la problématique, c'est que c'est pas que pour avec l'université qu'il faut qu'on discute. C'est aussi l'État qui doit prendre un peu cette décision de se dire, on arrête de faire payer aux étudiants l'inflation qui se passe aujourd'hui pour diverses raisons. Donc il y a un travail un peu concomitant, que ce soit au national qu'au niveau de l'université.
Parce que cette inflation, les étudiants en sont victimes sur tous les coûts que vous évoquiez.
Exactement,
avant,
surtout. Et quand on voit en plus l'actualité d'aujourd'hui, en plus on est sur la bonne journée du 8 septembre, on se dit que ça va continuer et ça va être pire. Et en fait, ce qu'on a envie aujourd'hui, c'est qu'on arrête de constater la précarité étudiante, parce qu'elle existe et ça fait des années qu'on alerte dessus, et qu'on prenne enfin ce combat et qu'on fasse des choses concrètement et qu'on arrête juste de dire oui, les étudiants sont précaires, oui, mais faisons des choses, proposons des choses.
Et justement, par rapport à cette précarité, vous qui les rencontrez, ces étudiants précaires, quelles sont les dépenses auxquelles ils renoncent en premier? Est-ce que même des fois, ils mettent entre parenthèses leurs études pour ces questions-là?
Certains arrêtent. On remarque dans certaines filières une augmentation des personnes qui arrêtent, avec aussi d'autres facteurs. La plus grosse, c'est l'alimentation. En vrai, on a énormément d'étudiants qui arrêtent de s'alimenter. Et après, on remarque aussi qu'on a, c'est les chiffres qu'on a au niveau de l'Agorae, c'est 88% d'étudiants qui se salarient par nécessité. Donc, des fois, ils ne vont pas forcément se restreindre sur certains trucs, mais par contre, ils vont devoir travailler. Et là, on retrouve des étudiants qui sont épuisés, des étudiants qui ne vont pas en cours, des étudiants qui ne se présentent pas au partiel, et on en revient à ce qu'on discutait au tout début, des étudiants, du coup, qui arrêtent leurs études parce qu'ils n'ont plus les moyens de les financer. Et tout simplement de vivre, de s'alimenter, de payer le loyer, et ainsi de suite.
Alors, vous mettez en place des solutions, notamment avec l'université, mais pas que, par rapport à cette précarité menstruelle, par rapport à l'alimentation. Ça, c'est des choses que vous arrivez à mettre en place, qui sont difficiles aujourd'hui à mettre en place?
Elles deviennent de plus en plus difficiles parce que, comme on en discute, il y a aussi le coût. Et que tout a un coût et qu'aujourd'hui, trouver des partenaires pour avoir de l'alimentation, trouver des partenaires pour faire en sorte de pouvoir faire vivre ces propositions que nous on fait. On essaye de mettre en place aussi des activités culturelles pour les étudiants, pour qu'ils sortent un petit peu de ce qu'on a aussi dans la vie active, mais boulot, métro, dodo. On essaye de faire en sorte que les étudiants ne rentrent pas dans ce cercle vicieux, mais ça coûte de l'argent. Donc on essaye de trouver des partenaires, mais c'est toujours compliqué. Et on fait aussi des appels aux bénévoles, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça aussi que fonctionne notre modèle associatif. C'est grâce à des bénévoles, grâce à des étudiants qui s'engagent pour les étudiants. Donc on essaye, mais on sait que les temps qui vont arriver vont être de plus en plus durs, parce que les budgets se restreignent un peu de partout, que ce soit la mairie, la région, les départements, l'État, de manière générale, quoi.
Et alors, quelles sont vos principales revendications là en cette rentrée, puisque a priori il y aura des nouvelles personnes à la tête de l'État?
Oui, il y en a plusieurs. Celle qu'on a depuis toujours, c'est le repas à 1 euro pour toutes et tous, c'est la désindexation de la CVEC, c'est le gel des frais d'inscription qu'ils arrêtent d'augmenter chaque année. On commence à en avoir des nouvelles, notamment au niveau de la FEP, notamment sur les loyers et sur les logements, parce qu'on a eu des problèmes il n'y a pas longtemps sur une résidence étudiante
qui n'a pas pu ouvrir en septembre.
Qui devait ouvrir en septembre et qui en fait va peut-être ouvrir en novembre. Donc encore là, on est dans des incertitudes. Donc on demande le gel notamment des loyers et des prestations sociales là au niveau du CROUS, parce que pareil, on voit que le CROUS fait augmenter ses loyers, alors que le CROUS est à destination d'étudiants qui sont boursiers et qui sont précaires. Donc voilà, il y a aussi une logique là à revoir. Et après, au niveau là plus du parc immobilier de la mairie, on demande à la mairie la mise en place d'un permis de louer. Ça existe notamment à Thouars et à Niort. C'est-à-dire que la mairie doit s'assurer que les travaux sont terminés, s'assurer que les bâtiments peuvent être loués par la personne qui veut, le prestataire privé. Et c'est la mairie qui donne l'autorisation de pouvoir mettre ce bâtiment à la location. Et comme ça, au moins, on a une sécurité qui n'a pas été faite, notamment sur le bâtiment qui devait accueillir quand même 300 étudiants, ce qui n'est pas rien. Donc on demande cette mise en place qui fonctionne très bien à Thouars. On avait discuté avec le maire. Pour eux, ça demande forcément des ressources humaines, mais derrière, le bénéfice est largement favorable.
Merci beaucoup Lisa Da Silva d'être venue nous présenter donc ce coup de la rentrée 2025 en Poitou-Charentes. Je rappelle que vous êtes vice-présidente en charge des affaires académiques et sociales pour l'association La FEP.
Merci à vous.
On continue en musique avec Goliath, ce titre Le Veau d'Or de l'album L'Émancipé qui est sorti l'an dernier. Et ils étaient à Terre du Son pour, dans le dispositif Propulsion cet été.
L'envie de punir, le cœur sévit de tout remords. Le cœur peur, le cœur peur, le cœur peur, le cœur. À cœur et encore, somme de pièges, j'ai tué le roi. Je suis invité au vœu populaire, armé de toutes nos peurs, érigé des frontières. Mes pères ont peur de tous nos frères. Habité, enchanté de tout cet or, dans nos cœurs et nos corps, c'est l'amour qui dort. Réveillons-nous de toutes nos peurs. À cœur et encore, somme de pièges, j'ai tué le roi. À cœur et encore, comme une trêve, j'ai rêvé de toi. À cœur et encore, somme de pièges, j'ai tué le roi.
Pulsar 95-9.
Ah ouais.
Et pour parler de la création d'une chaire énergie et territoire à l'Université de Poitiers, j'accueille Thierry Ferreira, délégué général de la Fondation Poitiers Université. Bonjour.
Bonjour.
Et docteur Nicolas Bion, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de catalyse pour l'énergie. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Et vous êtes membre de l'IC2MP, l'Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers. Je ne sais pas si on le dit comme ça.
Mais... Exactement.
C'est ça. Parfait. Merci bien. Alors, revenir peut-être au départ de cette création. Qu'est-ce qui a motivé la création de cette chaire énergie et territoire à l'Université de Poitiers?
Thierry, je te laisse commencer avec la Fondation.
Alors, tu me passes la parole. Alors, en fait, c'est une démarche globale au niveau de l'Université de Poitiers qui a décidé, en fait, d'initier la création de ces chaires partenariales. Alors, en quelques mots, l'idée, c'est de prendre un sujet, un thème de société et de faire travailler autour de ce thème des chercheurs en pluridisciplinarité, parce que ce sont des problématiques complexes, on va le voir avec l'énergie. Et également de construire des programmes de recherche action sur le territoire avec des acteurs du territoire, des collectivités, des entreprises, des associations. Donc ça, c'est le contexte général. C'est cette volonté d'aller plus loin dans l'université, l'université dans la cité, donc de co-construire des recherches sur le territoire. Donc ça, c'est le contexte général. Et très rapidement, effectivement, bien sûr, hein, on est tous conscients qu'il y a une vraie problématique au niveau de l'énergie, de transition au niveau énergétique à opérer. Et donc, voilà, on a été quelque part mandaté, la Fondation, par l'université pour travailler à la préfiguration de cette chaire. Et c'est dans ce contexte qu'on a identifié deux co-porteurs qui sont Nicolas, qui est présent aujourd'hui, et Marie Ferru, qui est professeure en géographie. Et donc, il va vous en parler un petit peu plus.
Oui, justement, pourquoi énergie et territoire, quels sont un peu les objectifs que vous êtes donnés pour cette chaire ?
Alors, énergie et territoire, parce qu'on est en plein dans la transition énergétique, il faut trouver des solutions en particulier pour émettre moins de dioxyde de carbone et donc limiter le réchauffement climatique. Et l'énergie a un rôle très important pour arriver à des solutions dans le cadre de la transition énergétique. Et en fait, on s'aperçoit que selon le territoire sur lequel on va travailler, les solutions peuvent être différentes. Donc voilà pourquoi on a associé ces deux mots-là. Et en fait, en tant que chercheur, moi, des sciences technologiques, on nous demande de plus en plus de regarder aussi l'aspect sciences humaines et sociales. Donc l'intérêt aussi de cette chaire, c'est d'aller dans cette direction-là, de prendre du recul par rapport aux recherches qu'on fait et de nous associer entre disciplines différentes pour travailler avec des géographes sur le territoire et avec des gens de la science technologique sur les technologies qui vont permettre de résoudre un peu ces problématiques.
Parce que Marie Ferru est membre du laboratoire Ruralité, donc professeure en géographie. Elle est donc, voilà, c'est en ça que vous êtes associé.
C'est ça. Et en fait, on a associé bien d'autres disciplines. Ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de rassembler le maximum de disciplines, donc de collègues qui travaillent dans le domaine de l'énergie. Et donc, on a monté un comité de pilotage dans lequel non seulement il y a Marie et moi, mais il y a également des économistes, il y a des gens compétents en psychologie sociale, il y a des gens experts en droit, en problématiques liées au droit, dans le cadre de la transition énergétique, etc.
Et alors, comment on implique les acteurs locaux aussi dans cette recherche ?
Alors, ça dépend de la chaire. Dans le cas présent, c'est vraiment des discussions avec la collectivité de Grand Châtellerault, au départ, qui a fait naître cette idée, puisqu'il y avait un grand projet de création d'un hub énergétique sur le site des Fonderies du Poitou.
Sur une friche industrielle, en fait.
Une friche industrielle. Et ça nous a semblé un cas d'usage passionnant. Parce que, bien évidemment, quand on a commencé à discuter avec Grand Châtellerault, eh bien, on a très vite compris qu'il y avait des problématiques techniques. Hein. Nicolas y reviendra peut-être. Alors, l'idée de ce hub, c'est de faire de l'énergie photovoltaïque. Et une partie de cette énergie photovoltaïque va être utilisée pour faire de l'hydrogène vert. Donc très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait des questions autour de mais qu'est-ce qu'on va faire de cet hydrogène vert ? À quoi est-ce qu'il va servir ? Derrière, donc des problématiques techniques de gestion de réseau et tout ça, donc vraiment très technologique. Et à côté de ça, des questions aussi autour de la gouvernance, comment tout ça allait fonctionner ? Des questions autour de l'acceptabilité des solutions qui allaient être développées. Parce qu'on ne peut pas construire des projets comme ça sans prendre en compte ce que pense la population. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de partagé. Et donc, c'est ça qui a fait qu'on est parti sur ce projet.
Peut-être je peux rajouter que, en fait, c'est pas si compliqué de réussir à fédérer les partenaires socio-économiques. À ma grande surprise, en fait, ils sont demandeurs. Et moi, personnellement, j'avais pas forcément l'habitude d'aller discuter avec les acteurs socio-économiques du terrain. Et en fait, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on va s'entretenir avec eux, qu'on va parler de notre démarche, de faire de la pluridisciplinarité sur des questions de l'énergie en lien avec des problématiques territoriales, et ben ils sont très ouverts, très intéressés. Et donc, que ce soit par exemple sur l'axe friche industrielle, Thierry en a parlé, mais sur l'axe avec le tourisme, on a des discussions avec le Futuroscope actuellement. On a une grosse problématique aussi liée à l'agriculture. Donc, on a développé plusieurs axes comme ça, et à chaque fois, on trouve des partenaires. Alors, c'est le début, on commence simplement, mais c'est vraiment très prometteur.
Ah oui, il y a quatre axes qui ont été déterminés, friche industrielle et énergie, agriculture et énergie, tourisme et énergie et quartier et bas carbone. Alors on a dit un mot sur les friches industrielles, sur l'agriculture, quels sont un peu les axes qui vont pouvoir être développés ?
Alors on va regarder l'agriculture comme un producteur d'énergie, parce qu'actuellement les agriculteurs, en plus de nous nourrir, ils produisent de l'énergie, c'est les biocarburants, c'est la méthanisation, etc. Et ça pose des conflits d'usage, etc. Les gens, on sait très bien, n'ont pas forcément envie d'avoir par exemple un méthanisation à côté de chez eux, etc. Mais ils sont aussi, ils ont des besoins énergétiques. Et parmi ces besoins énergétiques, il y a des choses qu'on ne soupçonne pas forcément, mais la fertilisation des champs, en particulier des grandes cultures, fait appel à des engrais azotés dont la production est très énergivore. Et donc, on va travailler à la fois sur cet aspect technologique de comment faire en sorte que l'agriculture soit un peu moins carbonée, et puis comment faire en sorte que la production d'énergie soit un atout, et comment on travaille sur ces différentes disciplines qui sont technologiques, humaines, etc., sociales, pour faire en sorte de mieux comprendre comment améliorer les choses.
Et alors, pour le quartier bas carbone, quel est un peu l'objectif ?
Alors, c'est l'axe, je vais dire, le moins avancé dans notre réflexion. En fait, c'est issu aussi de... On parle de cas d'usage, souvent. En discutant avec les partenaires socio-économiques, on nous parle de cas d'usage, et ça nous a amené à créer cet axe. Et là, en l'occurrence, c'était une discussion qu'on avait avec la SORÉGI, qui travaille... Alors, c'est un petit peu plus loin que Poitiers, c'est sur La Rochelle, sur un site qui s'appelle Atlantec, où ils essayent de faire en sorte de produire de l'énergie bas carbone ou zéro carbone, et d'alimenter des bureaux, des logements, etc. Donc il y a encore une fois là des questions technologiques, comment on fait pour produire bas carbone, etc. Mais aussi des questions juridiques, des questions économiques, des questions sociétales, comment faire en sorte que tout ça fonctionne bien. Donc il y a plusieurs cas d'usage comme ça sur lequel on s'est dit il y a un axe là à développer, mais pour l'instant c'est là qu'on n'a pas encore d'action concrète, contrairement aux trois autres axes dont vous avez parlé.
Et donc vous parlez de Grand Châtellerault, il y a aussi la région Nouvelle-Aquitaine. Comment cette chaire entre dans les politiques publiques, on va dire, d'une collectivité locale ou régionale ?
Alors, on répondra peut-être pas de la même façon à cette question avec Nicolas. Je rebondis juste avant de répondre à votre question sur le fait qu'effectivement, mobiliser des acteurs, Nicolas le dit, c'est relativement simple. C'est vrai contre toute attente, parce que les collectivités ont de plus en plus conscience qu'elles ont besoin d'acteurs de la recherche également pour les aider à éclairer leurs décisions, voilà, et avoir... Parce qu'on est dans une vision, toutes ces problématiques sont extrêmement complexes, extrêmement pluridisciplinaires, et on ne peut pas les raisonner que par l'aspect technique. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une attente. Maintenant, il faut arriver à lever un certain nombre d'a priori voilà, qui peuvent toujours exister, mais 90% des gens ont envie de faire ça, ont envie de faire ce chemin, et ça, il faut l'entendre, hein, dans une période où on nous divise. Donc, en fait, pour ce qui est de la région, le cas d'usage dont on parle, donc, comme disait Nicolas, on travaille sur des cas d'usage. Donc, ce sont des questions, on va répondre à des questions de recherche qui intéressent tout le monde, parce que les questions auxquelles ils vont répondre pourront être transférables à d'autres cas d'usage. En l'espèce, sur les fonderies du Poitou, en fait, c'est un projet qui était très regardé par la région via un programme qui s'appelle CADE. Et en fait, c'était de regarder comment redynamiser le territoire de Châtellerault, qui a d'énormes atouts, mais qui a aussi subi la question de la désindustrialisation. Donc la région a été, dès le départ, finalement, impliquée via ce programme dans cette réflexion autour des fonderies. Et dans un deuxième temps, et ça Nicolas pourra rajouter des éléments, eh bien, une fois que le programme de recherche, en fait, la façon dont on fonctionne, c'est ça. C'est-à-dire, on discute, on s'est dit quelles sont les grandes questions que l'on se pose tous ensemble et auxquelles on peut éventuellement répondre. Et ensuite, c'est la question des moyens vient en second. Si on veut faire tout ça, ben, qu'est-ce qu'il nous faut pour le réaliser en termes de salaire ? Et pour répondre à ça, eh bien, il faut aller chercher des financements. Et la région a été sollicitée dans le cadre des PSGAR, Nicolas va en dire plus, mais voilà. Donc la région finance pour partie le programme de recherche sur le site des fonderies du Poitou.
Oui, typiquement, en fait, ce qui s'avérait, c'est qu'on a lancé cette chaire en parallèle d'un lancement de la région, d'un grand programme scientifique de grande ambition régionale sur la thématique de l'énergie. Donc on a sauté sur l'occasion, et effectivement la région Nouvelle-Aquitaine finance beaucoup la recherche. Dans ce cadre-là, elle va nous financer des actions de recherche. Et ce qui est important aussi pour nous, c'est que la plupart des collectivités territoriales soient représentées dans notre comité de pilotage, parce qu'on s'aperçoit que depuis de longue date, elles ont mené des actions aussi, par exemple sur l'acceptabilité de la méthanisation agricole. Il y a des travaux de recherche qui ont déjà été faits. Donc c'est important que nous, on se base sur ces travaux existants pour ne pas reproduire la même chose. Et donc dans ce cadre-là, en plus du financement, les collectivités sont très importantes.
Donc là, la chaire a été officiellement lancée. Quelles sont les premières actions que vous allez mettre en place ?
Alors, effectivement, la chaire a été lancée au mois de juillet. On a été très heureux d'avoir beaucoup de partenaires socio-économiques présents, justement. Et ça, ça a déclenché beaucoup de discussions juste après la réunion et aussi beaucoup de sollicitations en aval. Donc, ce qu'on va commencer, c'est un travail sur, typiquement, l'effondrerie du Poitou. Donc, essayer de comprendre ce qui fait qu'une reprise de site industriel dans le cadre de la transition énergétique fonctionne ou fonctionne pas. Et qu'est-ce que ça implique à la fois d'un point de vue technologique, gouvernance, juridique, etc. On va lancer aussi, donc là, on a encore une discussion pour confirmer tout ça, mais avec le Futuroscope. Qui mène beaucoup d'actions pour la décarbonation et limiter son empreinte carbone. Donc, il s'intéresse à la mobilité de ses salariés, comment faire en sorte que leur mobilité soit moins carbonée, mais également essayer de comprendre comment on peut mieux gérer le flux de visiteurs au niveau des attractions et limiter parfois, en fin de journée, par exemple, un peu plus tôt, les besoins énergétiques lorsqu'il y a plus... Donc, vous voyez des choses très, très concrètes qui sont assez multiples. Donc, je ne pourrais pas lister là aujourd'hui.
Merci beaucoup à tous les deux, Thierry Ferreira, donc délégué général de la Fondation Poitiers Université, et Nicolas Bion, directeur de recherche au CNRS et membre de l'IC2MP, l'Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers. Merci bien à tous les deux d'être venus nous présenter cette chaire.
Merci beaucoup.
Alors, demain, dans Séquence Midi, on invitera notamment Raphaël Girard, directrice du TAP, pour présenter la saison et le début des vagabondages. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Aujourd'hui, pour 10 jours, commencent les semaines découvertes à l'association Mouve-toi, cours de danse, de fitness proposé par l'association. Donc, c'est gratuit et c'est sans réservation pour adultes et enfants. Vous pourrez découvrir salsa, bachata, kizomba, danse sportive, pilates, fit dance, body art, adultes et enfants. L'atelier d'art s'expose, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 1er octobre à la locomotive. Les élèves présentent leur production, soirée décrochage le 1er octobre et redémarrage de l'atelier d'expression artistique le 17 septembre, les mercredis. Pour tout niveau, ados, adultes, enfants. Prix étudiant également, initiation et perfectionnement pour toutes les techniques. Bourse aux vêtements enfants, c'est à 14h30 à la salle polyvalente de Vouillé. Si vous voulez donc acheter des vêtements pour enfants pour la rentrée. Et puis reprise du club Cœur et Santé, c'est à 17h45 au gymnase de Belle-Joanne avec des activités comme des séances de gymnastique douce, trois fois par semaine, des randonnées pédestres courtes de moins de 7 km. Et sur Pulsar, retrouvez à 18h votre émission And the Tap Drips. À 19h, c'est la bande dessinée avec X-Bull. À 20h, c'est Punks. Et à 21h, du live dans Scrognogne. C'était Yann à la réalisation technique. Merci. On se quitte avec Underground qui était au sommet avec ce titre Summit enregistré sur les hauteurs de Grenoble. Bonne écoute. À demain.